Chapitre 15. La main de sang sur l'oreiller. Le marquis, dans sa chambre, fait un bond. « Qui est là ? » crie-t-il. « Qui va là ?» Arraché brusquement à son sommeil, il ne ressaisit pas aussitôt ses esprits. Il fut pris de panique, de terreur, comme bien des gens nerveux, et sans chercher à se rendre compte de ce qui devait être, ce qui pouvait produire ce bruit, il ressentit tout d'abord comme une sorte d'affolement. Il sauta à bas de son lit, criant, appelant. Vivement, il tourna le bouton électrique pour faire de la lumière. À la tête de son lit était accroché un sabre de combat italien, arme terrible, tranchante et pointue, et un revolver de fort calibre. Il saisit ses deux armes et se disposa à se défendre, regardant au-devant lui avec des yeux hagards, fous, croyant voir un ennemi. Il chercha alors dans sa chambre, sous son lit, derrière les meubles. Avec le sabre, il frappa sur les portières, piqua de la pointe sur les rideaux. À ce moment, la porte qui avait fait du bruit se mit à battre de nouveau. Le marquis, le sabre en avant, bondit vers son cabinet de toilette. Les boutons électriques étaient le long du battant de la porte. Il donna de la lumière. Martin Dumas se vit en danger. Il voulut gagner une des armoires de la penderie, de la garde-robe, se dissimuler. Mais, par une fâcheuse coïncidence, une glace placée dans un angle lui projeta un faisceau de rayons lumineux. Son ombre tomba sur une autre glace qui la renvoya sur le mur de la salle de bain. Le marquis vit cette ombre remuer. Il la prit pour le corps même et il déchargea aussitôt, coup sur coup, son revolver sur cette ombre qui passait. Ses balles allèrent ricocher sur les appareils de bain, cassant, brisant les carreaux, une grande glace dont les morceaux, tombant à terre, firent un bruit qui vint augmenter grandement celui des détonations, le vacarme du revolver. « Au voleur !» criait le marquis, « au voleur !» Toute la maison maintenant était pleine de bruit. Les domestiques, affolés comme leur maître, réveillés par lui en sursaut, criaient, se précipitaient, se bousculaient, renversaient dans leur hâte les meubles dont la chute, le bruit, prolongeait le tapage. Mais le marquis, ayant jeté son revolver, pénétra sabre en main dans la salle de bain. Elle était vide. Il passa dans la penderie et se mit à plonger à diverses reprises son arme dans les effets suspendus sous les rideaux qui les recouvraient. Martin Dumas, caché derrière une tenture, ne bougea pas. Le sabre par deux fois frôla son corps et glissant le long de sa joue, piqua dans le mur. Martin Dumas ne bougea pas. Il me raconta ensuite cela très tranquillement, comme une chose tout à fait ordinaire, très simple. Oh, je frissonnais rien qu'à l'entendre. Je voyais cette scène. Le marquis affolé, tapant, pointant là, enfonçant son sabre, et Martin Dumas dans l'obscurité, se donnant ainsi à la merci d'un coup qui pouvait le tuer, sans bouger, sans essayer même de se garantir, calme, raide, impassible. Et j'admirais ce courage, cette force de volonté, le mot n'est pas trop fort, cet héroïsme. Cependant, dans un des derniers coups furieux et terribles que porta le marquis dans les effets, le sabre atteignit Martin Dumas au bras, près du poignet, lui fit une blessure, ou peu profonde en vérité, mais longue, qui saigna aussitôt. Et si le marquis, au lieu de se servir du tranchant à ce moment, de frapper brutalement, de donner en somme un coup de sabre, avait usé de la pointe, piqué dans la tenture, comme avec une épée, il traversait Martin Huma, il le tuait. Le marquis, cependant, avait été rejoint par ses domestiques. « Il y a des cambrioleurs dans la maison !» leur cria-t-il. « Cherchons, prenons-les !» Alors, avec un de ses gens, il revint dans sa chambre, passant par le corridor, tandis que d'autres pénétraient par la penderie pour cerner les cambrioleurs. « J'ai cherché par ici, » dit le marquis. « Ils ont dû fuir par l'escalier. » Ce fut une chance, sinon on ne couvrit pas Martin Huma. Cette fois, ce ne fut pas un, mais deux, trois sabres, des épées qui fouillèrent sous les tentures, les portières. Martin Huma, sachant que c'est sous les rideaux qu'on s'empresse d'aller chercher les cambrioleurs, les voleurs qui, d'ailleurs, s'y cache de préférence, se garda bien de conserver son abri présent. Pendant que le marquis était sorti dans le corridor et qu'il parlementait avec ses domestiques, Martin Huma, hardi, prompt, était sorti de sa cachette et il s'était mis là où certainement on n'irait pas le chercher, dans le lit même du marquis. Il s'était replié, fait aussi petit que possible, et roulé sous les couvertures violemment rejetées en désordre par Primo dans son premier moment de l'affolement. Le marquis et ses hommes se précipitèrent à travers les pièces largement éclairées maintenant. La penderie, la salle de bain, le cabinet de toilette. Avec leurs armes, raclant le parquet, pour rencontrer les pieds des malfaiteurs, fouillant de la pointe, tapant du tranchant sur les tentures, dans les armoires, dans tout ce qui pouvait offrir un abri à un homme, ils se hâtaient, se bousculaient, poussaient des cris, faisant grand bruit, peu de besogne. Ils inspectèrent les coins des pièces, regardèrent derrière les fauteuils, cherchèrent sous le lit. Pas un dans cette bousculade n'eut l'idée de tâter les couvertures, les draps amoncelés au pied du lit. Martin Huma passa quelques minutes vraiment poignantes. Il m'avoua, quand il me fit le récit de cette aventure, que, malgré son calme, son courage, son sang-froid, il lui tardait vraiment de se tirer de là. Enfin, quand tout le monde se trouva réuni dans la chambre du marquis, sans avoir rien découvert, Primo s'écria « Cherchons ailleurs, ils doivent être dans le salon ou la bibliothèque !» On descendit l'escalier. En bas, un homme qui couchait dans l'office, réveillé lui aussi, déclara que les malfaiteurs, les cambrioleurs, n'étaient pas de son côté. La porte était fermée. Elle était fermée, en effet, car Prosper, quand il avait entendu le bruit, les cris, les coups de revolver, était sorti pour donner un signal, appeler Philippe et les autres hommes de Martin Huma à l'aide, pour s'apprêter à sauver le chef, dût-on livrer bataille et prendre d'assaut l'hôtel du marquis Primo di Carmine Santucci. Rassuré par les déclarations de cet homme, le marquis et ses gens s'engagèrent donc dans la bibliothèque, le salon, se mirent à fouiller tout ce côté de l'hôtel, faisant comme pour la chambre à coucher, tapant et piquant sous les portières, les tentures, regardant dans les armoires, derrière les meubles. Ils couraient comme une meute lancée après un cerf, et ayant perdu la voie, qu'étant au hasard, revenant aux mêmes endroits, perdant du temps et n'obtenant rien. Martin Huma, lui, ne perdit pas une seconde en revanche. Il se dégagea des couvertures, des draps sous lesquels il étouffait, et il s'apprêta à fuir. Ce n'était pas commode en vérité. Il se sentait traqué, cerné. Sa blessure, en outre, le faisait souffrir. Devait-il fuir par le chemin, pris pour venir? C'était trop dangereux. Il craignait de ne pouvoir maintenant, avec cette blessure qui menaçait de lui engourdir le poignet, remonter les échelons de fer, passer par les toits. Puis, dans les pièces du haut, devaient se trouver les domestiques, femmes qui donneraient l'alarme. En bas se tenaient le marquis et ses serviteurs hommes. Le chemin était coupé de tous côtés, mais Martin Dumas, qui aimait les cas difficiles, où son esprit d'ingénieux fertile pouvait se donner libre cours, n'avait jamais été servi aussi généreusement que ce jour-là. Il n'y avait pour lui qu'une issue possible, l'escalier, le bas de l'escalier. En bas, en effet, devaient aux aguets, derrière la porte, se tenir Prosper, Philippe et ses hommes. Martin Dumas se doutait que le bruit des coups de revolver, que les cris étaient arrivés jusqu'à son second, jusqu'aux autres, qu'ils avaient dû voir les lumières qui tout à coup venaient de remplir la maison. Donc chacun était sur ses gardes et à son poste. Martin Dumas ne devait fuir que par le bas de l'escalier, comme d'ailleurs c'était convenu. Et pour cela, il fallait attirer le marquis et ses gens dans le haut, les faire quitter l'étage de dessous, où ils continuaient leur recherche pour remonter à l'étage au-dessus. Dans ce corps de bâtiment faisant pendant, de l'autre côté des appartements du marquis, se trouvaient des chambres d'amis et une salle d'armes. Martin Dumas, tout d'abord avec une serviette prise dans le cabinet de toilette du marquis, entoura sa blessure. À ce moment, une idée lui traversa le cerveau. Il la mit à exécution aussitôt. Sa main, qui tenait le bras blessé, était pleine de sang. Avec ce sang, Martin Dumas traça au milieu des draps tout blancs du lit du marquis un X, et il mit sur l'oreiller sa main largement ouverte qui laissa une empreinte sanglante effrayante. Rapidement ensuite, il ouvrit la première pièce qui se trouvait en face de la chambre du marquis, de l'autre côté du palier. Il traversa cette pièce et ferma à clé la porte intérieure, dont il jeta la clé sur une armoire. Dans cette pièce, il renversa quelques meubles, brisa des potiches, jeta à terre la pendule de la cheminée, bouscula une vitrine pleine de cristallerie de Venise, fit en somme autant de tapage que possible. Puis il revint dans la chambre à coucher du marquis. Sous la portière de l'entrée, il se cacha et attendit, veillant, regardant. Le résultat qu'il espérait se réalisa grandement. Le tapage qu'il s'était employé à produire consciencieusement dans cette chambre d'amis fut entendu par le marquis et tous ceux qui, dans les pièces du bas, couraient après les cambrioleurs. Et ce fut un cri général. « Ils sont là-haut, nous les tenons !» Le marquis, ses gens, se mirent comme une meute ayant retrouvé la bonne piste, à remonter l'escalier, criant, gesticulant, s'apprêtant à arrêter, à massacrer les cambrioleurs. Les meubles renversés dans lesquels ils s'enchevêtrèrent, tout d'abord en entrant dans cette pièce, avant qu'on ait fait de la lumière, leur donnèrent cette assurance que les malfaiteurs se trouvaient réellement ici, qu'ils étaient passés par là. Et le marquis, en avant, plus acharné que tous, fou, féroce, criait, son sabre levé, prêt à frapper. « Rendez-vous, rendez-vous !» Mais dans la pièce, on ne trouva personne. « Voyons dans les autres chambres, allons plus bas, ils ne peuvent échapper. » Alors ils se trouvèrent en face de la porte fermée par Martin Dumas. Oh! S'écriait-on, mais ils sont là! Ils sont là! La porte fermée les confirma dans cette opinion. Avec une ardeur magnifique, l'espoir de pincer enfin les malfaiteurs pris au piège, les excitant, ils se ruèrent vers la porte et se mirent en devoir de l'enfoncer. Martin Dumas, derrière la portière, suivant tout ce manège et en toute autre circonstance, aurait pu largement rire de cette comédie, car la scène devenait absolument bouffe. Enfin, sous tant d'efforts, la porte de cette pièce fut forcée, brisée. De nouveau, la meute se rua par la porte enfoncée, courant à la curée, pour ainsi dire, des malheureux cambrioleurs, dont les derniers retranchements étaient emportés, le dernier refuge pris d'assaut. Le marquis, ses gens, se répandirent dans les chambres d'amis. Alors Martin Dumas abandonna sa cachette. D'un bond, il fut sur le palier, devant la porte de la première chambre d'amis, par où les poursuivants triomphalement étaient entrés. Il ferma à clef cette porte et il emporta la clef. Puis en hâte, il descendit l'escalier. Ceux qui couraient après lui, furieux, prêts à l'écharper, se trouvaient ainsi ses prisonniers, mais par lui et sous clé. C'était le côté comique après la phase dramatique de cette soirée sensationnelle. En bas de l'escalier se trouvait bien le gardien à qui l'on avait donné l'ordre de rester là pour couper la retraite aux cambrioleurs. Mais ce gardien gisait à terre, sans connaissance, comme mort. Le fidèle Prosper, revenu pour secourir son chef, après avoir appelé ses hommes, avait asséné sur la mâchoire de ce gardien un coup de poing qui, pour n'avoir fait aucun bruit, il n'en avait pas moins à demi assommé le malheureux. Le chemin était libre. Quelques minutes après, Martin Dumas roulait dans sa voiture. Il regagnait non son domicile de la rue Lepic, ni sa maison sûre de Passy, mais l'appartement de son fidèle Prosper, où le docteur Goujet vint bientôt panser sa blessure. Martin Dumas détenait maintenant les chaussures tant convoitées et hardiment enlevées du marquis Primo di Carmine Santucci. Il allait pouvoir les comparer à la bottine vernie vendue par le Niaf.